Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
On ne parle partout que d'argent. En échange de bouts de papier, on ne veut rien d'irrégulier, surtout rien de singulier. On veut du plastique, du beau en surface, du lisse et du jetable, pourvu que ça ne coûte pas cher. Ça stimulera la croissance. À l'école, on nous farcit le crâne d'histoires de bélugas en voie d'extinction. C'est à nous qu'il revient de corriger une situation que l'humanité a mis des siècles à fabriquer. Faites un simple geste au quotidien. Quand elle carbure depuis tout ce temps à l'énergie monétaire, avec devant elle de moins en moins d'obstacles. Lourd programme, culpabilisant jusqu'à s'en mettre un canon sur la tempe. C'est ce monde-là qui t'invite à grandir, mon vieux. Ce monde qui, selon des principes arbitraires, défend mieux la beauté que la laideur et ses aspérités. Personne ne semble relever que les stars versées dans l'écologie se désintéressent du déclin des amphibiens au profit d'animaux mignons. On se préoccuperait davantage du sort de la grenouille arboricole si elle était pourvue d'un visage humanoïde et d'une fourrure blanche et dufteuse évoquant la pureté. C'est pourtant dans ta tête que ça va mal et nulle part ailleurs, Mario Marshall l'a dit. C'est ce dont ce monde-là veut te convaincre. Ils appellent ça « soutien aux élèves », on a prévu ce système pour nous guider, et il n'y a pas à dire, il est bien huilé. Tout pour nous maintenir dans le droit chemin. Favorisons la marche au pas. Nulle part on évoque les détours et les allées tortueuses.
Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour Québec.
Littérature sans frontières. Un pays, un auteur.
Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vie.
Bonjour Hélène Frédéric.
Bonjour.
Et merci de nous avoir lu un extrait de votre nouveau roman intitulé La nuit sauve, qui apparaît aux éditions Verticales. Un récit à trois voix, plus une quatrième qui se manifeste dans les paragraphes en italique, nous y reviendrons. Une fille et deux garçons qui nous racontent de l'intérieur, une nuit, en effet, comme l'annonce le titre, une nuit blanche d'été 1988, où ils se retrouvent autour d'un feu de joie dans une vallée de la campagne québécoise. Québec, où vous êtes née, Hélène Frédéric, quel est votre lien avec votre lieu d'origine?
J'y retourne le plus souvent possible, j'y ai vécu 30 ans. Je me suis installée en France il y a 13 ans. J'ai des attaches, ma famille est là-bas. Même j'y suis présente aussi à travers les livres, puisque mes livres sont repris dans une maison d'édition québécoise. Si je pouvais, je vivrais 6 mois par an au Canada, au Québec, et 6 mois par an en France, mais ce n'est pas possible. Alors voilà, j'ai des liens quand même très forts avec mon pays d'origine.
Donc vous y êtes encore attachée. Une raison particulière pour avoir mis de la distance entre ce lieu de naissance et ce lieu parisien où vous vivez désormais?
C'est une raison pas très originale. J'ai rencontré quelqu'un et voilà, quelqu'un qui est français. On a vécu cette relation à distance pendant un moment, mais au bout d'un moment, il fallait choisir. Et c'est moi qui suis partie, mais ça aurait pu être l'inverse. Enfin, c'est un peu un hasard d'une certaine manière. Mais la distance m'a sans doute aidé à écrire d'une certaine manière.
Vous êtes née à Saint-Ours, n'est-ce pas, dans la vallée de la Montérégie,
oui,
au Québec. Est-ce que c'est près de l'endroit que vous décrivez ici dans ce roman qui n'est pas vraiment identifié, si ce n'est qu'on sait qu'il s'agit d'un lieu assez loin de la ville et bordé de forêts?
Oui, tout à fait. Donc, je suis née à Saint-Ours et le roman est inspiré d'un fait réel, mais très librement inspiré, d'un fait réel qui s'est passé en 1988 dans mon village natal, dans ma ville natale. Et je me suis inspirée du décor. Vous avez parlé d'une vallée et en effet, c'est ça, c'est une vallée. J'y ai vécu 19 ans. Et à travers ce livre, m'intéressait particulièrement le défi de décrire un paysage assez dénudé, parce que j'ai souvenir d'avoir vu l'horizon très souvent. Peut-être aussi que ça me revient parce que je vis à Paris et qu'à Paris, l'horizon, on a du mal un petit peu à le voir. Et je me demandais comment, en choisissant pour décor ce lieu de mes origines, je me demandais comment il était possible de partir de presque rien, d'un décor, comme j'ai dit, assez dénudé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça devenait un écran de projection, comme c'était un écran de projection pour moi quand j'étais enfant et adolescente. Tout cet espace, toute cette liberté laissait beaucoup de place à l'imagination.
Donc c'est aussi une réflexion sur l'espace. Un espace qui vous manque aujourd'hui, Hélène Frédéric ?
Oui, je pense que oui, ça me manque. En même temps, ça installe, je pense, une tension qui est moteur à l'écriture pour moi. Donc, là, j'en suis à un point où je retournerais vivre au Québec et la France me manquerait, Paris me manquerait. Donc, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui nous manque finalement. C'est pas, il y a toujours le risque d'idéaliser ce qui nous manque et tout ça. Donc, j'essaie de ne pas tomber dans ce piège. Mais en effet, mes livres me servent à créer ou à mettre en place, en tout cas, ce qui me manque à travers la fiction, par exemple. Une rencontre qui n'a pas eu lieu ou, dans Forêt Contraire, j'avais un désir très fort d'être dans une forêt et j'ai écrit entièrement le livre à la BNF, la Bibliothèque François Mitterrand. Et Dieu sait que bon, il y a une forêt, mais bon, c'est pas...
Oui, il y a un jardin néanmoins. Oui, il y a un jardin, quand on est à l'étage des chercheurs, on est entouré d'une magnifique végétation au cœur de la ville, certes, mais entouré d'arbres et de fleurs.
Oui, tout à fait. Il y a une forêt. Je l'appelais ma forêt en cage. Mais en tout cas, ce manque, pour répondre à votre question, je pense qu'il est très fécond, finalement. Il me sert beaucoup dans l'écriture.
La Nuit Sauve, on l'a dit, donc, se déroule en 1988. Et vous l'avez rappelé, c'est précisé au début du livre, d'ailleurs, que c'est inspiré en partie d'un fait réel. Et en même temps, si je peux me permettre, Hélène Frédéric, vous êtes beaucoup trop jeune pour faire partie de cette génération que vous mettez en scène ici, qui, d'après ce que je comprends, quitte le lycée. Pourquoi cette époque vous intéresse-t-elle aussi ?
Alors, j'ai été indirectement témoin de cette nuit tragique, on va le dire comme ça. Effectivement, j'avais 12 ans, donc j'étais un tout petit peu trop jeune pour faire partie des protagonistes de l'histoire vraie, entre guillemets. Mais mon frère, lui, plus vieux, plus âgé que moi, est plus près de ce qui s'est passé, plus près de cette nuit-là. Donc pour moi, ce n'est pas un simple fait divers, puisque je l'ai vécu d'une certaine manière, mais en tant que témoin indirect. Et je n'ai pas voulu raconter exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, je parlais du manque qui est fécond. Le fait de ne pas savoir, justement, il y avait une part de mystère dans cette nuit. On sait, il y a eu deux morts, finalement, à la suite de cette nuit de fête. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et ce mystère m'a servi aussi pour l'écriture. C'est-à-dire, l'écriture m'a servi à combler... En fait, la fiction m'a servi à combler ce manque ou à éclairer ce mystère, mais à ma façon.
Alors, c'est vrai qu'il y a une très forte tension tout au long du récit, puisque donc, encore une fois, et on va y arriver plus précisément dans un instant, cette nuit est racontée par trois voix différentes. Et à la fois, il ne se passe pas grand-chose, en effet, puisque ce sont des jeunes qui se réunissent, qui vont être autour d'un feu, qui vont boire, qui vont se parler, qui vont se toucher, qui vont rêver à leur avenir, qui vont peut-être faire un état des lieux. Et intérieurement, en revanche, il se passe beaucoup de choses. Il y a vraiment un volcan, on sent cette jeunesse qui a envie à la fois d'en découdre, mais qui a peut-être aussi du mal d'abord à quitter sa propre enfance, qui est un lieu quand même assez confortable et béni, pour se jeter dans le monde, puisque... C'est sûr qu'ils vont devoir quitter cet endroit. Je me demandais néanmoins, Hélène Frédéric, quand vous racontez ces jeunes gens de 18 ans en 1988, est-ce que vous aviez l'impression que cette jeunesse-là était différente des autres jeunesses à la même époque, que ce soit à Québec, à Montréal, voire de l'autre côté de la frontière d'ailleurs, le Canada anglophone ou les États-Unis ?
Non, et c'est un peu pour ça que je n'ai pas souhaité nommer les lieux. Enfin, pour moi, il y avait quelque chose de... J'espérais rejoindre quelque chose d'assez universel. À cet âge-là, les tensions... Vous parliez de l'enfance, effectivement. Il y a l'enfance qui est encore tout près. Donc, les rêves, l'innocence, d'une certaine façon, la naïveté, les désirs, l'espoir de ce qu'on va devenir. Et en même temps, il y a cette terrible lucidité, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre les rouages du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et on peut ne pas se sentir le courage d'affronter le monde. monde adulte. Et pour moi, cette période, je voulais absolument y revenir un jour. Et je me suis dit, bon, j'ai 40 quelques années, je suis encore pas trop éloignée. Et il y a quelque chose de très aigu dans tout ça. Il y a quelque chose de très... De très fort, je pense, de très beau aussi, et j'avais envie d'essayer de mettre ça en scène. En réalité aussi, il faut dire, les personnes qui ont vécu cette tragédie étaient plus jeunes que les personnages du roman. Ils avaient autour de 15-16 ans, en fait, ils étaient très jeunes, et ça fait partie un peu du... C'est pour ça aussi que ça a été aussi marquant pour mon village, et pour... Il y a eu une sorte de silence qui s'est installé par la suite, enfin, c'est quelque chose de... Et j'ai mis beaucoup de temps aussi à aborder ce sujet, parce que il y avait quelque chose pour moi de presque de sacrilège de toucher à ça, parce qu'il y a eu des douleurs, enfin, des parents endeuillés, enfin bon, des personnes assez proches, le moins. Donc ces personnes étaient en réalité encore toutes jeunes et encore et en même temps et je me demandais qu'est-ce qui se joue exactement à cet âge-là. En fait, le roman pose des questions plus que, enfin je l'espère, plus que qu'il affirme des choses très arrêtées là-dessus. Mais...
Oui, parce que c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte qui est le thème central de votre roman, Hélène Frédéric, et c'est vrai que c'est une étape universelle, en tout cas dans de nombreux pays occidentaux qui se déroulent à peu près de la même façon. C'est un moment similaire, une transition. Mais vous, quand vous avez eu 18 ans, au même endroit, mais quelques années après, vous aviez l'impression que c'était encore la même adolescence ou le monde avait déjà changé?
Ce qui était frappant pour moi, c'est le milieu modeste dans lequel j'ai grandi. Il y a quelque chose d'une distance sociale aussi. Il se trouve que j'évolue aujourd'hui dans un milieu qui est pas celui-là, même si je suis pas non plus dans les hautes sphères. Mais j'évolue dans un milieu où je côtoie des gens assez instruits, en général, dont les parents sont assez, enfin, ont eu les moyens d'envoyer leurs enfants à l'université, etc. Alors que j'ai grandi avec des gens qui ne sont pas allés à l'université pour la grande majorité. Un milieu qui ne pouvait pas valoriser la culture, n'avait pas les moyens de le faire. Je veux pas juger ce monde-là, mais ça faisait partie aussi du défi de ce roman, c'était de faire un matériau littéraire à partir d'un monde qui refusait ce monde-là, qui refusait le milieu artistique, qui se moquait. Le personnage de Fred, l'écorché vif du roman, découvre la littérature à sa manière, de son côté un peu tout seul, il a pas de personne pour le guider. Et la littérature, pour lui, il faut cacher cet intérêt-là pour la littérature. Et c'est un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, moi, dans mon milieu d'origine. Et je l'associe à une classe sociale plus qu'à un lieu géographique. J'imagine que ça a dû exister ailleurs, en ville, mais peut-être pas. Je pense aux transclasses, Édouard Louis.
Annie Ernaux.
Annie Ernaux, exactement. Moi, je le traite d'une manière peut-être plus fictionnelle, mais c'était aussi ce qu'il y avait au fond derrière tout ça, les tensions, les sentiments des personnages, pour moi, prennent leurs racines dans ce décalage, dans ce gouffre social.
Lie in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcases of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you.
littérature sans frontières. Un pays, un auteur.
Et nous sommes au Canada aujourd'hui, plus exactement au Québec, avec notre invitée, l'écrivaine Hélène Frédéric, pour son troisième roman intitulé La Nuit Sauve aux éditions Verticales, qui est construit un peu comme un kaléidoscope, voire une boule à facettes, puisque le livre est traversé de très nombreuses références musicales de cette fin des années 80, où vos protagonistes écoutent à la fois Cyndi Lauper, George Michael, Madonna, ou encore les groupes U2, Europe, Police, The Bangles, bref. Trois adolescents, on l'a dit, qui prennent la parole, une jeune fille, Julie, qui s'exprime aussi au nom de son amie Sophie, et deux garçons qui parlent à tour de rôle, Mathieu, plutôt un séducteur, qui, lorsqu'il embrasse une fille, pense à une autre, et Fred, mal dans sa peau, ce qui est d'ailleurs un pléonasme à cet âge, parce qu'il est un peu enrobé et il lit en cachette. Qu'est-ce qu'ils incarnent pour vous, ces trois-là, Hélène, Frédéric ? Est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs de l'adolescence ?
Oui, j'ai volontairement pris des personnages qui se démarquaient un peu les uns des autres, puis en même temps qui correspondent à des personnes que j'ai pu croiser. Mais en même temps, je voulais montrer à travers le personnage, par exemple, de Mathieu, qui est plus sûr de lui, que moi, je le vois comme un personnage qui a besoin de la vitesse, qui croit au mouvement, qui se met en mouvement et qui ne s'arrête jamais parce qu'il a peur de ce qu'il pourrait voir s'il s'arrêtait. Il a peur des tensions qui l'habitent. Alors que Fred, qui souffre énormément, lui, il souffre aussi d'être à l'écoute des tensions qui sont en lui. Et c'est aussi une force extraordinaire qu'il a, et malheureusement, il a peut-être pas la force d'assumer pleinement cette sensibilité, etc., en raison aussi de son milieu social et tout. Et Julie, c'est peut-être le personnage le plus fort, parce qu'il n'est pas seul, parce qu'il est, il a un interlocuteur, elles sont deux pour affronter ce qu'elles trouvent extrêmement difficile de cet âge-là. C'était à la fois inspiré de gens que j'ai pu croiser, en même temps c'était des personnages qui me permettaient, moi, d'explorer ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les tensions, les pulsations intérieures, les désirs, tout ça.
Alors, vous avez commencé d'en parler tout à l'heure. Fred est un garçon qui lit en cachette, presque. Il a dans sa poche un exemplaire du livre de Pierre Boulle, L'épreuve des hommes blancs. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire de ce roman, Hélène Frédéric, pour mieux comprendre pourquoi vous l'avez choisi?
Alors, dans ce roman, il y a un personnage qui... ça se passe en Malaisie. C'est une jeune blanche qui se retrouve mariée à un malais plutôt d'origine indigène, on va dire, parce que c'est le vocabulaire de l'époque. Donc, le livre a été écrit pendant les années 50, début des années 50, si je ne me trompe pas. C'est un roman qui n'est pas très connu, pas du tout même.
Non, on connaît plus Pierre Boulle pour La planète des singes,
oui, voilà,
par exemple.
Voilà.
Ou Le pont de la rivière Kwine, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Mais il se trouve que j'ai lu moi-même ce roman quand j'étais à l'école. Et je fais partie de ces personnes qui n'avaient pas de livre à la maison et pour qui les lectures obligatoires, entre guillemets, de l'école étaient vraiment... source d'enthousiasme, source de, enfin, moi ça m'a extraordinairement nourri et dans ce livre ça m'amusait de reprendre vraiment un livre qui m'a marqué, quitte à prendre un livre qui n'est pas parfait du tout, qui
pas un classique non plus,
pas du tout, qui a plein de défauts. Je l'ai relu, je me suis forcée à le relire et j'avais un petit peu peur. Je l'ai relu pour l'écriture du roman et j'ai constaté qu'effectivement l'écriture, bon, c'était pas, ça me renversait pas du tout. Il y a des défauts, il y a des raccourcis. Bon, je l'évoque un peu dans le livre, mais en même temps c'était une manière pour moi de rendre hommage à ces lectures que les professeurs nous donnaient. Et aussi, il se trouve que le thème, et pourquoi le livre m'avait tant marqué, c'était que dans le livre, la jeune femme blanche échoue l'épreuve du bac. En fait, elle revient s'installer en France avec son mari, et elle échoue l'épreuve du bac, et son mari ne lui pardonne pas, parce que pour lui, c'est une sorte de rite. Il a compris que l'épreuve du bac, c'est l'épreuve que les hommes blancs doivent traverser, et quand il comprend que sa compagne a échoué, ben pour lui, c'est un échec impardonnable et c'est bon. Il y a une grande violence là-dedans et puis ça questionne la violence de notre société civilisée et pour moi, ça avait ouvert une brèche incroyable à l'époque où je l'ai lu. Je devais avoir, je sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai aucune idée, je ne sais pas pourquoi la professeure nous avait fait lire ce livre. Je ne sais pas si à l'époque il y a eu, je ne sais pas du tout. Mais en constatant qu'il y avait des liens entre ce qui, moi, m'intéressait, je parlais de tensions sociales, de violences de notre monde d'aujourd'hui, et ce roman, eh ben, je tenais à ce que ce soit ce livre, même avec ses défauts, qui soit présent dans le livre, dans mon roman.
En tout cas, vous dites, Hélène Frédéric, de très belles choses sur le livre, la littérature et la lecture en général. Évidemment, particulièrement dans les chapitres où Fred prend la parole, je vais citer quelques phrases. « Ma lecture du livre ou du monde est la seule chose qui m'appartienne en propre ici-bas. Par la nuit qu'il contient, le livre n'est pas un objet comme les autres. Il est un charbon brûlant dans la poche intérieure de mon blouson. Grâce à ce matériau de mots, les limites deviendraient prolongement, il y aurait métamorphose, il y aurait construction, il y aurait invention. » Le mauvais rêve deviendrait supportable et pourrait mieux en autre chose. Mon enfermement, lui, serait moins visible. Fermez les guillemets. Et là, c'est parce qu'il se met lui aussi à écrire dans les marges des livres qu'il lit et à écrire ce qu'il appelle un anti-poème. C'est aussi comme ça que vous avez commencé, Hélène Frédéric, à devenir écrivain ?
Dans les marges des livres. D'une certaine manière, oui. C'est la première fois qu'on me pose la question de cette manière. C'est beau. Oui, puisque j'ai commencé par des critiques littéraires et puis par la poésie, mais sans nécessairement chercher à publier au départ. C'était plutôt pour participer à des lectures et dans l'idée d'échanger avec les autres à partir de cet espace de liberté-là. Donc, au départ, je ne cherchais pas à publier. Je participais à des lectures publiques de poésie, parce qu'au Québec, c'est très vivant. Il y a quelque chose d'extraordinairement vivant en poésie au Québec. Enfin, il y a quelque chose qui parfois me manque, ou alors c'est parce que je n'ai pas eu accès encore à ce monde-là ici. Donc oui, peut-être que j'ai commencé par... je rêvais d'écrire des romans, mais je n'avais pas le temps, peut-être je n'avais pas la confiance, je sais pas. Peut-être qu'il me manquait aussi une distance, j'en parlais tout à l'heure. Peut-être qu'il fallait que je m'éloigne un peu de mon milieu d'origine, enfin, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai commencé d'une certaine manière, par les marges de la littérature, puisque j'ai été libraire et tout ça. Mais toujours dans l'idée, d'abord à Québec et puis à Montréal. Et puis,
Et qui vous a donné envie de rêver d'écrire des romans?
Oh, je pense que c'est en lisant. Peut-être que ça arrive à tout le monde. Quand on lit, parfois, on se met... Moi, je me souviens d'avoir lu, pas forcément de la bonne littérature, mais je lisais, j'avais des périodes où je lisais beaucoup, beaucoup. Et après, dans tout ce que je faisais, j'avais l'impression de me raconter, de transformer en fiction ce que j'étais en train de vivre ou ce que j'étais en train de penser ou de ressentir. Enfin, très tôt, j'ai eu envie. Et dès qu'il y avait à l'école, je sais pas, un sujet, il fallait composer, il fallait écrire un texte de composition et tout ça, j'étais bien. Je me souviens des fois, on avait ce qu'on appelle des sujets libres, et je me souviens que c'était le cauchemar pour la plupart des élèves, et moi, au contraire,
l'horizon s'ouvrait.
Oui, voilà. Et c'était un espace qui me... Peut-être j'ai mis du temps à m'autoriser à en faire quelque chose de plus fini ou de plus abouti. Mais je pense qu'assez tôt, j'en ai eu envie.
J'aimerais parler avec vous maintenant, Hélène Frédéric, de la langue, de l'écriture, de votre langue, de votre écriture, qui ici est totalement dénudée de ce qu'on pourrait appeler des québéquismes, ces expressions québécoises, voire d'accent québécois. Alors, il y a peut-être un exemple, une expression, page 89. Je vous laisse lire juste ça, ces trois mots.
Toute cette affaire imputrescible.
Ça, c'est plutôt une langue, une écriture québécoise, mais quant au reste, pas du tout. Je me demandais si c'était une mise à distance volontaire.
Pour moi, c'était un écueil à éviter, d'une certaine manière. C'est pas un roman réaliste que j'ai écrit. Et puis, il se trouve que je vis entre deux cultures, hein, d'une certaine manière. Vous connaissez sûrement ça, par votre émission, vous recevez toutes sortes d'écrivains qui sont dans cette situation, sans doute. Donc, je suis dans un entre-deux. Ma langue, elle est partagée elle-même entre ma langue d'origine et la langue dans laquelle j'évolue au quotidien. Et vouloir faire un roman réaliste qu'on puisse croire à tout prix que c'est vraiment des Québécois, des jeunes Québécois qui s'expriment, j'aurais eu peur d'être obligée d'aller dans quelque chose de caricatural ou de... C'est pas ce qui m'intéressait. Je voulais assumer pleinement une langue, qui soit pas réaliste. Effectivement, des adolescents vont pas s'exprimer ni en France ni ailleurs dans cette langue. Et pour moi, le monologue intérieur, c'était une manière d'éviter justement cet écueil-là. Et c'est aussi, pour moi, c'est ma propre voix, c'est ma voix. Donc je voulais pouvoir l'écrire avec ma voix, cette voix d'entre-deux. Après, on m'a dit qu'il y avait quelque chose dans la langue qui faisait pas français ni on se dit pas non plus ah c'est du québécois, mais c'est ma langue, enfin c'est ma voix, et je pense que ça aurait été difficile à entendre peut-être pour les Québécois autant que pour les Français si j'avais essayé d'écrire à tout prix dans une langue qui colle au réel des adolescents des années 80 dans quelle langue on parlait. Enfin, ce qui m'intéressait vraiment c'était les tensions intérieures des personnages, et pour moi la langue qui pouvait porter ça c'était ma voix à moi, mon style à moi, enfin je sais pas comment le dire, mais enfin, voilà.
C'est intéressant ce que vous dites, Hélène Frédéric, parce que en même temps j'allais vous parler de la quatrième voix, puisque ici donc je le rappelle, ce sont trois voix qui s'entremêlent pour raconter donc à la fois de l'intérieur les sentiments, mais aussi donc le déroulement de cette nuit qui va finir par un drame, on ne sait pas encore lequel. Et vous intercalez quelques phrases, quelques brefs paragraphes en italique qui semblent venir peut-être du futur, en tout cas quelqu'un qui sait ce qui s'est passé. Et donc à la fois ça prépare le lecteur à la chute et en même temps ça crée une tension qui nous pousse forcément à avancer dans cette nuit. C'est un ressort assez machiavélique que vous mettez en place. Et moi, il me semblait que justement, cette quatrième voix, c'était votre voix qui s'exprimait dans les lignes. Ou alors, vous êtes partout, vous êtes omnisciente.
Oui, je suis peut-être un peu trop partout. Non, je ne sais pas. C'est très juste ce que vous... En tout cas, ça rejoint ce que je ressens par rapport à cette voix-là et ce qu'on a dit aussi avec mes éditeurs, Jeanne Guyon et Yves Pagès, chez Vertical. Parce que c'est un peu avec eux aussi que j'ai trouvé cette voix. C'est la voix qui sait comme le cœur dans le théâtre grec sait et va chuchoter à l'oreille. C'est la voix qui est effectivement plus près de moi, plus près du moi contemporain ou de l'auteur qui parle, qui s'éloigne un peu de la fiction, qui s'exprime depuis un lieu et un temps plus près de nous. Mais c'est vrai, c'est très juste. Mais bon, je pense que c'est normal aussi que la voix de l'auteur se sente dans tous les personnages. Mais cette voix, il se trouve que elle n'était pas là dès le départ. Et puis j'ai découvert que c'était un lieu de liberté là aussi, parce que je pouvais peut-être écrire un peu plus poétiquement ou enfin bon, je sais pas. En tout cas, c'était un autre espace. Ça me plaisait bien d'avoir cet autre espace.
Oui, je vois bien ça aussi en effet comme un autre espace. Un autre espace-temps même. Oui. Vous, ici en France, parlant de ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années,
déjà, oui.
Au Québec, dans un autre endroit. C'est ça le lien.
Oui, exactement. Ouais. Oui.
Merci beaucoup Hélène Frédéric. Je rappelle donc le titre de ce roman, La nuit sauve, qui apparaît aux éditions Vertical.
Merci à vous. Québec.
Littérature sans frontières.
Un pays, un auteur.